France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On va éviter aujourd'hui de parler du nombre de yaourts consommés par Nicolas Sarkozy durant son séjour en prison et d'exemplaires de son livre vendu. Mais pour introduire cette émission, on va rappeler ce qui s'est passé. Le jeudi 25 septembre 2025, au terme d'une instruction qui a duré 10 ans, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Dans ce procès, parmi les parties civiles, se trouvaient des proches de victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA, un avion de ligne à bord duquel les services secrets libyens ont fait exploser une bombe en 1989. Si les raisons qui ont poussé le régime libyen à commettre cet attentat restent encore obscures jusqu'à ce jour, le bilan de 170 morts en fait concrètement l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré contre la France. A priori, me direz-vous, on peut ne pas saisir directement le lien entre le financement de la campagne de 2007 et un attentat 15 ans plus tôt. Cette émission, aujourd'hui, est destinée à essayer de comprendre qui sont ces parties civiles et pourquoi elles s'estiment victimes. Et comment, à l'inverse, la victimisation de Nicolas Sarkozy, qui a suivi le jugement, est pour elle une souffrance supplémentaire. Elle raconte tout de suite à la première personne, sans commentaire, à Claudia Prolongeon.
Je m'appelle Marie-Vanne Ravenot, j'ai 79 ans. J'ai deux enfants, deux garçons, Hugues et Christophe. Je suis originaire de la Martinique, tout comme mon mari l'était. Je suis l'épouse du commandant Georges Ravenot, qui pilotait le vol UT-772 le 19 septembre 1989. J'ai rencontré Georges Ravenot, mon mari, en Martinique, au cours de l'été 1972. Il avait débuté sa carrière en Martinique en faisant pilote privé. Il faisait du traitement de bananes. Après, il a passé ses concours au fur et à mesure. En Martinique, c'était difficile. L'éloignement ne vous permettait pas de rentrer tout de suite dans des grandes écoles. Donc lui, il a pris la petite voie, comme il disait, mais qui l'a bien amené assez loin. Quand je l'ai rencontré en Martinique en juillet, mon projet était déjà de venir m'installer à Paris. Donc je m'installe à Paris et lui, il est toujours à Toulouse dans ses cours. Et après, il revient à Paris et on se marie. Et là, il est embauché pour la Nouvelle-Calédonie, dans une succursale d'UTA. Vous aviez Air France, UTA et Air Inter. UTA avait la partie Afrique, Air France avait le reste, et Air Inter avait l'intérieur de la France. Donc, une grande compagnie, un transport de passagers, et voilà. C'est mieux que les bananes, c'est moins risqué, et puis c'était son rêve depuis le début. Donc on passe 2 ans en Calédonie, et on revient ici en 76. Parce qu'il est embauché à UTA. Alors, j'avais un garçon d'un premier mariage. Son père n'a plus donné de nouvelles, donc je l'ai à temps plein. Et mon deuxième fils naît en 77. Alors là, on est installé à Senlis, dans l'Oise, parce que c'est plus près de Roissy. Et que tous les vols UTA partent de Roissy. Georges a considéré que c'était ses deux enfants. Il n'a jamais fait de différence. C'est ça qui est touchant aussi. Il disait toujours qu'il avait deux enfants. Georges était donc pilote expérimenté qui faisait de l'Afrique. Il était commandant de bord et instructeur. Et cette vie, je la trouve agréable. On n'est pas H24 un sur l'autre. C'est difficile, parce que dans les coups durs, les enfants malades, les soucis, vous êtes seuls. mais ça me va. Je travaillais dans l'immobilier, je change ma manière de travailler. À ce moment-là, je veux plus prendre un travail à temps complet. Je voulais être là quand il était là. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, on organise comme ça et ça nous convient à tous les deux. En plus, l'Afrique, il a pas de décalage horaire. Quelquefois une heure, mais c'est pas grand-chose. Donc là, c'est une bonne qualité de vie que nous avons. Le vendredi 15 septembre, c'était un vol à 8h du matin. Le vol devait être de retour le mardi 19. Entre-temps, je l'ai au téléphone le dimanche parce qu'il appelait souvent au moins une fois. Et là, il appelait aussi pour prendre des nouvelles parce qu'il y avait un cyclone qui passait sur les Antilles. À ce moment-là, le cyclone Hugo. Et la dernière fois que je l'ai au téléphone, c'est le dimanche soir. Pour lui dire qu'à première vue, le cyclone ne passe pas. Enfin bon. Et donc, à mardi. Et le mardi, il devait arriver à la maison vers 20h30. Donc on l'attendait pour dîner et en attendant, on regardait les nouvelles.
Sans nouvelles d'un long courrier. Il s'agit d'un avion DC-10 de la compagnie française, compagnie privée UTA, qui faisait la ligne Brazzaville, N'Djamena, au Tchad et Roissy.
Et aux 20h, on apprend qu'il y a un avion qui a disparu. Ça ne me touche pas. Je me demande quels sont les copains qui sont sur cet avion parce qu'ils parlent de N'Djamena. Et moi, genre, j'y venais de Brazza, donc ça ne m'effleure pas. Mais je monte quand même voir, et parce qu'il laissait toujours sa feuille, son planning sur le bureau, en fait, dans son bureau. Je monte avec Hugues et on découvre que c'était bien Brazza, mais une escale à N'Djamena. Et là, là j'ai compris.
Ah. Il se peut qu'on n'ait pas de nouvelles parce que simplement il n'y a pas de radio là-bas, mais quand même, ça fait plusieurs heures et la situation commence à être un petit peu angoissante.
On a des réactions quand même curieuses quelquefois. J'ai dit à Hugues, enlève le couvert. Dans ma tête, on sera jamais plus quatre. Quoi. Et c'est tout de suite que je lui ai dit ça. C'est ce qui m'est venu à l'idée, mais ça voulait dire quelque chose. Voilà. L'attentat avait eu lieu à 15h. Depuis 15h, ils sont sans nouvelles de l'avion. Vous croyez que quelqu'un vient nous prévenir? Rien du tout. On le prend en pleine face. Au JT de 20h. Au début, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu un contact avec l'avion à 15h. Et le lendemain matin, on apprend qu'on a localisé l'épave. On parle de l'épave. On l'avait localisé, mais on ne savait pas s'il y avait tout le monde était mort, tout le monde. Voilà. À ce moment-là, son meilleur ami, qui était aussi commandant de bord et instructeur, a dit « Je vais sur place ». Il voulait être là. C'était assez loin dans le désert. Ils ont été héliportés ou déposés sur les lieux. Et là, il l'a reconnu et voilà. On a su au bout de 2 jours qu'il ne restait personne, aucun survivant. Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait une bombe qui avait été posée au départ de N'Djamena, et voilà. Finalement, on a pu savoir que cet attentat avait été organisé par la Libye, du colonel Kadhafi, mais sans tellement plus d'informations. En 99, il y a eu un procès qui a duré comme 2 jours et demi, et les 6 terroristes ont été nommés, dont Abdallah Senoussi, qui est le beau-frère de Kadhafi, mais personne dans le box, une frustration énorme. À partir de ce moment-là, je regarde et j'observe particulièrement tous les liens entre la France et la Libye, qu'ils soient politiques ou économiques. En octobre 99, j'entends Jacques Chirac désigner Kadhafi comme son ami, et là, je ne supporte pas. Parce que Georges était encarté RPR à l'époque. Il avait pris une semaine de congé pour piloter Chirac dans sa campagne anti-Guyane. Donc il y croyait. Moi, j'écris à Jacques Chirac à ce moment-là en disant « Souvenez-vous de ce jeune pilote quand même. Ça demande une réponse. » Et aucune réponse. En 2003, j'ai refusé l'indemnisation proposée aux victimes. Cet accord a été signé entre un collectif de victimes et Kadhafi. J'ai refusé l'indemnisation parce qu'il y avait le mot « explosion » et il n'y avait pas le mot « attentat ». J'y tiens à ce mot « attentat ». Une explosion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la faute du pilote, ça peut être... Non, c'est un attentat. C'est tout. Après, en février 2004, Jean Javéus a sa médaille de l'aéronautique. Cette médaille de l'aéronautique qu'on a en fin de carrière ou pour des choses qu'on a fait, des heures de vol ou ce qu'on a fait, tout l'équipage l'a eu. Je ne supporte plus ça, ces médailles, ces marches blanches, ces trucs qui... On fait ça et puis on passe à autre chose. Moi, je ne peux pas passer à autre chose. Donc, et je ne peux pas la garder. Je dis non, je la renvoie à M. Deroubien, qui est ministre des Transports. Copie à M. Villepin, aux Affaires étrangères. Personne ne me répond. On dirait que cet attentat a dérangé. En 2005, je lis dans Le Figaro, Madame Alliomari va en Libye et elle offre en cadeau à Kadhafi la tangente de Polytechnique. La tangente, c'est l'épée qui est de Polytechnique, qui est un symbole énorme. La France lui offre ça. Elle était ministre de la Défense à ce moment-là, Madame Alliomari. Et je lui ai écrit 3 pages recommandées, reçues. Je lui pose déjà la question. Pourquoi le gouvernement français respecte-t-il tant Kadhafi? On ne me répond jamais. C'est comme si cet attentat n'a pas existé. À chaque fois qu'il y a un article dans un journal, une référence à la Libye, le décédiste n'existe pas. Si je veux défendre la mémoire de Georges, je ne peux pas laisser passer ça. Et à chaque fois, j'écris une lettre parce que c'est le seul moyen que j'ai. Et aucune réponse, jamais. Et là, je trouve que ça commence à devenir très, très, très lourd.
Une police omniprésente, même la garde montée, est sollicitée. À lui seul, Muammar Kadhafi a une fois encore bloqué la circulation à Paris. Aujourd'hui, il jette son dévolu sur le Louvre. Pas très loin de là, et ce n'est pas un hasard, Nicolas Sarkozy reçoit les familles des victimes de l'attentat du DC-10 du TA. Pour ces familles, Kadhafi est le symbole de cet acte terroriste. Sa présence est douloureuse.
Alors, 2007, Kadhafi vient à Paris. J'entends qu'on le laisse monter sa tente en face de l'Élysée. Et je me dis, mais il se passe quoi? On vous ferme la Seine, on vous privatise le Louvre. C'est pas possible. Les 170 personnes, c'est quoi? Ça ne compte pas. Moi, je me suis pris une claque, là. Je ne sais pas, à ce moment-là, ce qui me fait plus mal, si c'est l'absence de Georges ou la manière dont est traitée cette absence. Aujourd'hui, je vous dis oui, la manière dont est traitée cette absence est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc, à partir de 2011, j'avoue que j'étais un peu au bout du rouleau, là. Vraiment... Et je vois que Mediapart réveille quelque chose. On entend que Sarkozy, sa campagne aurait été financée par Kadhafi. J'ai été en colère de voir que mon pays, les politiques en qui j'avais confiance, ont été derrière notre dos parler avec Senoussi, avec un des terroristes. C'est comme si les gens du Bataclan se rendaient compte 10 ans après que des politiques avaient été parlés avec Saddam Hussein. Ça a été un choc énorme. Et puis c'est une image bête de vous dire qu'on tuait Georges une deuxième fois, mais qu'il était assassiné cette fois-ci par son pays, pas par des étrangers. Quand j'apprends que Nicolas Sarkozy va être jugé suite à cette enquête de 10 ans faite par des juges, je décide de me porter partie civile. Ce procès m'a fait énormément de bien. Il a été difficile, hein, parce que tout ressort. Mais il m'a fait du bien parce que j'ai été écoutée. Le fait de voir des juges, il y avait quand même des 8 ou 9 juges, et puis un public, qui entend ce que vous avez à dire. Et j'ai simplement lu à ce procès la lettre que j'avais envoyée à Sarkozy en 2007, en lui demandant « Mais qu'est-ce qu'on doit à Kadhafi ?» Et Christophe, mon deuxième fils, a aussi témoigné en disant à M. Sarkozy que pendant des mois, des années, il a pensé que son père était en train d'errer dans le désert. C'est fort. Et donc, c'était notre place, voilà. Si on voulait défendre la mémoire de Georges, puisque mon pays ne le fait pas, mon pays s'en fout, moi, j'ai un devoir de mémoire pour Georges. Quand j'ai appris que Nicolas Sarkozy nous sortait un livre sur ses quelques jours passés en prison, j'étais atterrée. C'est un non-respect. Aujourd'hui, on me parle de raison d'état, de... Je ne sais pas pourquoi il a été assassiné, je n'en sais rien. Alors, il se dit que c'est parce qu'on s'était occupé de la guerre du Tchad. Enfin, il se dit, c'est... Il y a une raison quand même. À défaut de la vérité, la France nous doit le respect. Avant, j'avais du chagrin, aujourd'hui c'est différent. J'ai aucune haine, mais j'ai beaucoup de colère, que je n'avais pas avant.
Je m'appelle Johanna, je suis née en mars 88 et ma maman était hôtesse de l'air depuis déjà plusieurs années pour la compagnie UTA. Elle travaillait principalement sur des destinations africaines au moment de son décès, donc au moment de l'attentat dit du DC-10 UTA qui a eu lieu le 19 septembre 89. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 2 ans dans pas très longtemps, donc qui a l'âge que moi j'avais quand toute cette histoire a débuté en 89. Quand ma maman est décédée, j'ai vécu d'abord chez mes grands-parents maternels. J'avais un père qui n'était pas en mesure vraiment de s'occuper de moi car il souffrait de troubles psychiatriques avant ma naissance, avant même d'avoir rencontré ma mère. Et autant vous dire que l'attentat en soi a vraiment tout accentué de manière absolument scandaleuse. Donc, je suis passée par 14 maisons différentes entre mes 1 an et demi et mes 14 ans. Donc, des membres de la famille, oncles, grands-parents, plusieurs familles d'accueil, plusieurs foyers. Et à 14 ans, j'ai été adoptée par des amis de ma maman, à qui elle avait demandé de s'occuper de moi si jamais il lui arrivait quelque chose. Donc, c'était dans son testament. Ça a mis 14 ans à être appliqué. Mais j'ai fini par les rencontrer et là, découvrir ce qu'était une famille, donc des parents et des frères et sœurs. Moi, je suis pupille de la nation, donc ça a été fait quand j'étais toute petite. Pupille de la nation, ça veut dire que l'on est adopté par l'État. Alors, l'État ne se substitue pas aux décisions du parent survivant ou des membres de la famille, mais vient en soutien pour tout ce qui est éducation, accompagnement de l'enfant qui a perdu un proche, soit en zone de guerre ou soit en situation d'attentat terroriste. Me reconnaître en tant que pupille de la nation, c'était effectivement reconnaître que ma mère était morte pour la France. Ce que moi j'ai compris, c'est qu'effectivement, maman était morte pendant son travail dans un avion qui avait explosé à cause d'hommes qui n'aimaient pas la France, et ces hommes-là étaient des Libyens. Et j'ai compris la violence de ce qui s'était passé quand j'étais en primaire, quand j'ai des instituteurs qui m'ont bien fait comprendre qu'utiliser le mot attentat ou le mot bombe ou le mot explosion, c'était pas tout à fait adapté à un public de mon âge. Donc que mes camarades pouvaient pas vraiment comprendre ce qu'était mon histoire. Donc là, je pense que j'ai compris la violence de la manière dont étaient mortes ma mère et les 169 autres passagers. Le nom d'Abdallah Sinoussi, c'est pour le coup un nom qui a toujours fait partie de l'histoire, de mon histoire. Abdallah Sinoussi a toujours été le personnage central à cette affaire. À l'issue du procès en 99, donc les hommes sont condamnés, Abdallah Sinoussi est donc condamné, absent, il aura un mandat d'arrêt international qui sera déposé contre lui et contre tous les autres. Mais personne n'est en prison et les gens n'ont pas vraiment de visage. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont très probablement en Libye et que la Libye ne les extradira pas. C'est quand même vide, quoi. La commémoration du 19 septembre, je pense que j'y vais vraiment depuis toute petite. J'ai beaucoup accompagné mon grand-père. Lui trouvait ça très important. Nicolas Sarkozy, je l'ai croisé, je pense, la première fois en 2003. J'étais ado et j'étais avec mon grand-père qui était très très fier à l'époque de présenter sa petite-fille et qui était très fier de me montrer aussi qu'il y avait des gens importants qui se déplaçaient pour la commémoration du décès de maman et des autres victimes du décès 10. Et je me souviens des mots de mon grand-père qui m'a dit « Mais tu vois, si ces gens-là sont là, c'est que maman, elle est pas morte pour rien. » Et effectivement, Nicolas Sarkozy venait serrer des paluches hors caméra avec des mots, ma foi, très sympas. Et moi, il m'a, oui, effectivement, posé la main sur l'épaule en me disant qu'il fallait bien grandir et qu'il fallait être courageuse. Quand Kadhafi est accueilli en France en 2007, moi je suis étudiante à Paris, mon école est vers les Champs-Élysées, je prends la ligne 6 pour rentrer vers Montparnasse où j'habitais, et je suis évacuée du métro pour une alerte au colis piégé. Dans mon cerveau, le lien de cause à effet est fulgurant, quoi. Je me dis, c'est pas possible, ce type est en France, moi je sors du métro parce qu'on me dit que potentiellement il y a une bombe dans le métro. Et je me vois sortir du métro, enchaîner les clopes, puis de me dire, tu mesures pas ce qui est en train de se passer, il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles il est présent en France, et puis la République vaille que vaille. Parce que pour moi, en tant que pupille de la nation, le cadre étatique, il est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être trahi par son président de la République et par les gens qui vous représentent et qui sont censés défendre vos droits. Donc pour moi, ce n'est pas envisageable que ce qui se joue là dans mon propre pays soit en fait le pièce d'un puzzle absolument atroce, dont une autre pièce est l'attentat dans lequel est décédée ma mère. Et puis, ça date de 2011, les premiers papiers de Mediapart, où effectivement, on lit qu'il y a un lien vague mais possible entre l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy et le régime de Libye. J'ai 23 ans à l'époque. C'est un moment de ma vie où je me concentre sur ma vie personnelle. Mais très rapidement, quand même, le nom d'Abdallah Sinoussi sort. Et là, il y a quand même quelque chose qui tique. Et en 2015, je vais retrouver des gens qui ont perdu un proche dans le décès 10. Et je vais notamment rencontrer Danielle Klein. C'est avec elle qu'on décidera, des années plus tard, de se porter partie civile et puis vraiment de creuser l'idée que les familles du décès 10 ont une place bien malheureusement, mais au sein de l'histoire qui est les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy. Danielle Klein a perdu son grand frère. Et je pense que de nous tous, c'est quand même la première qui vraiment s'est dit il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Et quand on apprend qu'il va y avoir un procès, on tombe des nues. Avec Danielle Klein, décide de se porter partie civile, ce sont pour trois choses. La première, c'était être entendu par un juge. La deuxième, c'était avoir des éléments de vérité qu'on espérait obtenir des coprévenus, et puis pour une idée qu'on se faisait de la justice. Alors, on a témoigné au tribunal assez rapidement au début des audiences. Alors moi, j'ai souvent des choses de ma maman sur moi. Vous voyez, j'ai ma montre aujourd'hui, j'ai deux bracelets que j'enlève jamais. Et j'avais aussi envie de porter son foulard, qui est un foulard UTA d'une vieille époque. C'était à l'époque où les hôtesses de l'air étaient vraiment habillées par les plus grandes maisons de couture françaises. Et je l'ai porté autour du cou avec vraiment le truc logoté vraiment de manière très voyante et puis tourné vers l'éco-prévenu pour qu'il puisse n'avoir aucun mal à le lire. J'ai eu aussi envie de me rappeler au bon souvenir de Monsieur Sarkozy qui se trouvait à un petit mètre de moi au moment où je témoignais, qu'on s'était déjà rencontrés, que nos regards s'étaient déjà croisés et que sa main m'avait même touché l'épaule en m'indiquant qu'il était hyper important d'être courageuse et de bien grandir et qu'avec du recul, c'était extrêmement grossier et affligeant de nous tenir de tels propos alors qu'en parallèle, se jouaient déjà d'aussi grandes choses avec le régime libyen. C'était quand même le seul qui ne regardait pas ses chaussures. C'est-à-dire qu'autant un Brice Hortefeux, un Claude Guéant, alors eux, pas vu, pas entendu. Lui, on sentait que, oui, il avait envie de se défendre et il l'a fait suite à nos témoignages. Il a eu le droit de prendre la parole et puis nous expliquer très gentiment qu'il comprenait notre douleur, évidemment qu'il faisait preuve d'empathie, mais qu'il estimait que notre douleur ne devait pas être une raison pour faire de lui le responsable de quelque chose dont il n'était pas. Dans une position un peu victimaire, c'est-à-dire qu'il nous rendait coupables de son malheur. J'ai un profond sentiment de justice quand je sors de cette salle d'audience. Pourquoi ? Parce qu'il est établi factuellement qu'ils sont coupables d'avoir entretenu ces liens avec le terroriste responsable de l'attentat. Et puis, le rouleau compresseur des jours et des semaines après a été pour moi d'une extrême violence. Je ne m'attendais pas à assister à autant de mensonges et de contre-vérités, d'entendre autant de gens que je n'ai jamais croisés en salle d'audience s'exprimer comme s'ils avaient tout compris, comme s'ils avaient tout lu et comme s'ils avaient tout entendu. Pour moi, ça a été terrible, au point que j'en ai tellement serré les dents que je m'en suis cassé une. Je dois ma première couronne à M. Sarkozy et ses camarades. Depuis le jugement, on essaye quand même de se faire une place dans le débat public et d'avoir une place au sein du cirque médiatique que nous impose toujours Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la mise en scène de son entrée à prison de la santé, la mise en scène de sa sortie, la sortie de ce livre, il alimente tout seul les choses, quoi. Et nous, on subit. Je pense qu'on est assez nombreux à se dire que oui, nos familles, nos proches et moi, ma maman, ont été un peu les grands oubliés de l'histoire. Le drame du décédiste, c'est quand même le plus gros attentat perpétré contre la France. Mais pourtant, ça a été un peu un attentat oublié. Sa mémoire a été maltraitée, quoi. Et en tout cas, moi, ça m'a permis aussi de créer quelque chose, un espèce de lien avec ma maman, de se dire, oui, tu vois, si t'avais été là, j'aurais pas eu besoin de faire ça, mais si je le fais, c'est pour toi, quoi. Ma maman, elle était assez grande, elle était plus grande que moi, elle faisait presque 1m80, elle faisait 1m77, très très jolie. Et elle avait cette particularité qui était de sourire tout le temps. Je trouve que c'est quelque chose de joli à garder comme image de sa maman. Elle s'appelait Martine. I know just what your mama said. Always misunderstood. C'était Les filles du décédiste, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Éric Lancien avec un coup de main de Louise André. Je précise que Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation et qu'il est donc à nouveau présumé innocent dans cette affaire. Merci à Marie-Vonne, à Johanna et à Guillaume. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Yeah. soir.